Les sacs à dos, l'émission qu'il vous faut pour parler archéo. Bienvenue sur Transistor dans l'émission concoctée par Archéolab et les étudiants du master médiation du patrimoine, de l'histoire et des territoires de l'Université de Rennes 2. Cette année encore, nous allons vous emmener à la découverte des patrimoines archéologiques et nous irons rencontrer ensemble tous ceux qui contribuent à les faire connaître. Bienvenue dans Truelles et sacs à dos. Nous sommes quatre étudiants du Master Médiation du Patrimoine à l'Université de Rennes 2. Et pour cet épisode, nous avons promené notre micro un matin d'hiver du côté de Saint-Malo, dans les locaux de l'ADRAMAR, une association qui œuvre pour le développement et la recherche en archéologie maritime. Nous y avons rencontré Hélène Baudecazou, qui exerce un métier peu commun, archéologue plongeuse. Écoutons-la nous parler de son métier. Bonjour Hélène Baudecazou. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'ADRAMAR ?
Alors l'ADRAMAR a été fondée en 1993 par Michel Lourd et Elisabeth Vera. C'est une association loi 1901 qui a pour objectif d'étudier, de protéger les sites archéologiques et le patrimoine maritime, d'aider à la formation. Elle a également pour objectif de réaliser des actions de médiation scientifique qui sont à la fois grand public et de diffusion scientifique devant des publics spécialisés. Donc on organise des événements et on a une programmation aussi à l'année auprès des scolaires. Et puis on fait également de la publication d'ouvrages scientifiques, puisque on réalise des opérations d'archéologie, prospection et fouilles archéologiques.
De façon générale, pouvez-vous nous expliquer comment naît un projet de fouilles archéologiques sous-marines ?
D'abord, on va avoir un projet scientifique. On va se poser une question sur ou bien une zone géographique, ou bien une épave qui est déjà identifiée, qu'on va vouloir étudier. Donc moi, je m'occupe plus des épaves, mais ça vaut aussi pour d'autres types de vestiges, des ports, etc. Et là, avec notre question, on va monter un dossier. On va commencer par faire des recherches sur l'historique de ce qui a eu lieu sur ces vestiges, sur des archives qu'on va déjà connaître plus ou moins. On va monter un dossier auprès du DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, qui est un département du ministère de la Culture qui va gérer, autoriser toutes ces opérations qui sont demandées. Donc opérations de fouilles, c'est-à-dire on va faire un sondage sur par exemple une épave, ou opérations de prospection. Là on va être dans une zone à prospecter comme en terrestre, c'est-à-dire avec une méthode pour enregistrer les vestiges qu'on va trouver, mobilier, etc. Donc ça, c'est le cas de la fouille programmée. Et dans un second temps, il y a la fouille préventive qui, en général, correspond à un aménagement, par exemple d'un parc éolien en mer ou d'une extension d'un port. Et là, il va falloir faire une étude d'impact en amont des travaux, qui est en général fait par un organisme d'État, l'INRAP, pour un diagnostic. Ils vont regarder s'il y a des possibilités de vestiges et s'il y en a, il peut y avoir une fouille archéologique prescrite. Et là, donc, il y a un appel d'offres qui sort. Et des organismes privés de bureaux d'études peuvent répondre à cette prescription de fouilles de l'État. Nous, à l'ADRAMAR, en tant qu'association, on va plutôt faire la recherche programmée.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemble la structuration d'une équipe de fouilles ?
D'abord, il y a un directeur d'opération qui est responsable de la bonne tenue scientifique et de la stratégie de fouille et qui va écrire le rapport avec des collaborations ou pas, mais c'est lui qui est à l'origine de la question scientifique et de sa réponse. Ensuite, il va y avoir un directeur des plongées, donc un chef d'opération hyperbare qui va être responsable de la sécurité des plongeurs, du bon déroulement des plongées. Et ensuite, il va y avoir tout un tas de spécialistes qui vont être recruter plus ou moins en fonction du vestige. Par exemple, si on étudie une épave, il va falloir quelqu'un de spécialisé en architecture navale, enfin en archéologie navale. Il va falloir peut-être quelqu'un de spécialisé dans l'étude du bois. Donc, quel type d'essence a été utilisé, quel âge avait le bois. S'il y a du mobilier, ben, ça peut être intéressant d'avoir un spécialiste, par exemple, de la céramique ou de l'artillerie, qui va pouvoir étudier les canons ou le mobilier de bord. Parfois, on va aussi avoir besoin d'un spécialiste de la conservation préventive pour être sûr aussi du bon suivi des matériaux une fois sortis pour l'étude. Mais ça, ça dépend aussi des budgets qu'on a.
Pouvez-vous nous parler d'un projet de fouille sur lequel vous travaillez actuellement ?
Alors, l'association de la Dramar, en 2024, a eu plusieurs projets qui ont été menés. Un des projets, c'est une prospection sur l'écueil et le rat de la Mercière, qui a été dirigée par Aurore Barraud de l'Agerie, qui est donc membre de la Dramar et qui est archéologue professionnelle et plongeuse. Elle a donc réuni une équipe d'archéologues, d'étudiants en archéologie et de bénévoles aussi, qui ont fait des prospections donc circulaires. Donc, on est intervenu sur zone, on a géolocalisé des points, qu'on a matérialisé l'envoi d'une gueuse au fond, donc un poids avec une bouée, et puis donc les plongeurs sont descendus le long de la bouée et ont tendu un câble. Et puis en fait, contrairement au terrestre, au lieu de faire des prospections en ligne, on a fait des prospections en cercle, en notant à chaque fois qu'on trouvait un vestige, un cap et une distance au point géolocalisé, ce qui a permis de cartographier les vestiges qu'on a retrouvés au fond, des petits mobiliers, mais aussi des vestiges plus importants, canons, ancres, etc. Pour se lancer dans cette opération, il y avait eu du travail fait en amont sur les archives de naufrage qui avaient eu lieu sur cet écueil et ce rat, sur des déclarations anciennes par des plongeurs locaux qui n'étaient pas forcément très bien resituées. Il y avait eu plusieurs opérations après des déclarations d'inventeurs. Et donc tout ça a pu être retrouvé, complété, et donc normalement en 2025, il y a une nouvelle opération qui doit être menée. Et l'autre opération qui est celle de la recherche du Victor. Donc là, on part d'archives qui font mention d'un naufrage d'un navire de 1645 qui s'appelait le Victor. Et donc c'est Gérard Bousquet qui dirige cette opération, qui est lui un bénévole historique de la Dramar et qui recherche depuis plusieurs années ce navire qui aurait naufragé au large de Saint-Briac. Donc là, c'est une prospection géophysique. Il n'y a pas de plongeur envoyé dans un premier temps. On va d'abord faire passer un sonar, un magnétomètre sur une zone qui aura été étudiée au préalable. On va essayer de resserrer les zones possibles du naufrage en prenant en compte les courants, les vents, la météo possible à l'époque, les dommages possibles qui ont été faits sur la coque avant le naufrage, est-ce qu'il a pu dériver vers où, etc., etc. Donc tout ce travail a été fait en amont de la prospection 2024. Ensuite, il y a eu la prospection géophysique et on est censé envoyer des plongeurs pour vérifier certaines cibles qui ont été observées durant la prospection. Là, on enverra des plongeurs pour aller vérifier si ce sont bien des cibles qui correspondent à une épave ou si ce sont d'autres objets, peut-être plus récents, ou bien juste une ancre, voilà, autre chose. Donc ça, c'est des opérations en cours de terrain. Après, on en a d'autres, plus de médiation et documentaire. Par ailleurs, les bénévoles de l'association se sont lancés dans la réparation de l'Hermine Bretagne, donc notre support de fouilles archéologiques, qui est un navire en bois de 19 mètres de long qui a été construit à Carantec au chantier Sibiril et qui a été dragueur ostréicole pendant assez longtemps avant d'être acheté dans les années 2000 pour en faire un navire scientifique. Donc il a été adapté pour la plongée et l'archéologie. Il a servi pendant 10 ans sur les fouilles de la Natière et puis ensuite sur tout un tas d'autres fouilles archéologiques au Ponant, sur les façades atlantiques, Manche, Mer du Nord. Et donc là, depuis le Covid, c'est un navire qui a subi un peu quelques mésaventures. Il est resté un peu longtemps sans naviguer. Les navires, ça a besoin de naviguer. Donc il y a besoin de faire des gros travaux qu'on a lancés, nous, sur nos fonds propres de l'association, grâce à l'énergie bénévole. Et on va bientôt donc avoir besoin d'aide extérieure pour pouvoir continuer à le rénover. Donc on a fait un appel aux dons, là, qui est lancé incessamment. Tous les dons comptent, et puis les bonnes volontés aussi, si jamais ça vous intéresse.
Est-ce que vous pouvez nous parler à présent concrètement du travail d'archéologue sur une journée type ?
En général, on se lève tôt. ça peut être assez différent, une journée type, entre la Méditerranée et nos contrées à marée. Mais globalement, donc par ici, on va se lever, on va s'organiser, on va se retrouver d'abord en briefing en début de journée. Et on va avoir un programme de plongée qui va être établi déjà la veille, qu'on va reprendre. On va se répartir un peu les choses à faire par palanquée, donc de deux plongeurs ou plus, qui vont se relayer sous l'eau pour établir des tâches qui vont être donc bien prévues à l'avance. On va se lancer sur ce programme théorique. Et une fois sur place, sur le chantier, ben, on va devoir réévaluer en général les choses à faire, parce qu'il arrive toujours des petites choses. Donc, comme on ne peut pas parler sous l'eau, ou de manière minimaliste, hein, on peut s'écrire des choses sur une planchette, mais on ne peut pas y passer la plongée non plus, hein, le temps est compté. Et puis, voilà, on va se faire comprendre de manière basique, mais pas plus. Ce qu'on avait prévu de le faire, on va le faire, on va remonter. S'il y a besoin d'une transmission, on va le faire à bord du navire une fois remonté. Donc là, on va réévaluer un petit peu. Bon, voilà, j'ai fait ça, j'avais besoin de ça. Par contre, il y a aussi ça qu'on n'avait pas prévu, donc peut-être il faut que tu t'en occupes aussi. Là, ça, j'ai vu ça, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil si t'es vraiment en fin de plongée ? Donc le suivant va partir en ayant ces informations, peut-être des choses en plus à faire sur son programme, peut-être des choses différentes de ce qui était prévu. Et donc le briefing se réécrit aussi un petit peu au cours de la journée en fonction de ça. Il y a beaucoup de paroles entre les plongées. Et le soir, donc en fonction de ce qu'on a fait dans la journée, on va relancer un nouveau tableau de briefing, un nouveau programme pour la journée suivante. Donc avec du matériel peut-être à prévoir un petit peu en amont des plongées pour être sûr que tout le monde ait le bon matériel sous l'eau. On peut pas forcément remonter, ça dépend de la profondeur. Donc tout se réévalue un petit peu en permanence et en même temps tout est très programmé.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'outils que vous utilisez sous l'eau, des outils spécifiques à l'archéologie sous-marine ?
Sur un chantier, quand on fait un sondage, on va pas pouvoir prendre une pelle ou une truelle et envoyer du sable parce que ça reste en suspension régulièrement, donc on ne voit plus rien. Donc on va avoir ce qui s'appelle des aspirateurs à sédiments, qu'on appelle vulgairement des suceuses en fait dans le milieu, qui sont des motopompes à bord des navires qui vont aspirer de l'eau, qui vont être envoyées dans des manches pompiers dans un long tube PVC qui a une tête qui fait un Y. Et donc l'eau va arriver dans la tête du Y et va être recrachée à l'autre bout du tube PVC. Et l'autre bras du Y, ça va être celui que nous on va manipuler pour aspirer, parce que l'arrivée d'eau dans la manche pompier et dans le tube va faire un effet Venturi qui va nous permettre, nous, d'aspirer des sédiments et de le recracher plusieurs mètres plus loin. Donc c'est ça qu'on utilise pour enlever le sédiment de manière délicate et le recracher juste un peu plus loin.
Est-ce que les marées représentent une contrainte sur votre travail ?
Bien sûr, notamment ici, puisque c'est les deuxièmes plus grandes marées du monde. Donc, en fonction des endroits, si les lieux sont plus ou moins protégés, si on subit différemment des effets des courants, etc. C'est plus ou moins violent, mais on ne peut n'être amené qu'à plonger que pendant les heures d'étale, c'est-à-dire les heures où la marée se renverse. Ça peut durer une heure à marée haute et une heure à marée basse, donc espacé de 6 heures. Donc ça peut rendre la logistique et surtout le temps disponible sur le site assez précieux. Et donc ça va d'autant plus demander de l'efficacité sur le chantier. Après, en fonction des endroits, ça peut être aussi un peu plus long. On peut avoir 2-3 heures. Donc les créneaux sont variables en fonction des sites. C'est-à-dire que quand on arrive sur un site, il faut anticiper des temps de plongée. Parfois, au début, on a besoin d'un petit calage, puis ça se met en route. Mais ça fait partie des contraintes de site qu'il faut avoir vraiment anticipées. Par exemple, ici à Saint-Malo, on a aussi la contrainte du barrage de la Rance, qui est particulier, puisqu'il y a des horaires où il y a énormément de courant qui est induit par les turbines. Et on a parfois des petits décalages par rapport aux marées. Et si on est côté Rance, c'est encore plus important, parce que là, on peut être vraiment dans le flux des turbines. Ça peut être impactant pour la stratégie de fouille et le temps qu'on va passer sur un site.
Pouvez-vous nous parler à présent de l'impact des fouilles archéologiques sur les fonds marins, notamment en ce qui concerne la préservation de la biodiversité ?
Oui, alors au moment où on monte un dossier pour faire une demande de fouille, en général, il y a un document Natura 2000, par exemple, à remplir pour savoir si on est près d'une zone à risque, s'il y a des espèces protégées qui sont sur zone. On peut demander des autorisations supplémentaires si vraiment on est dans des parcs naturels qu'on n'est pas obligé d'avoir, par exemple, si jamais c'est trop fragile. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, notre impact, il est limité dans l'espace. On ne va pas découvrir de manière extensive les vestiges puisqu'on a un temps limité, une équipe limitée. En fait, contrairement à d'autres opérations d'archéologie terrestre, on a besoin d'une logistique lourde et souvent notre temps sur place est limité. Donc, on ne va pas avoir 6 personnes qui vont travailler 8 heures d'affilée sur un espace. Donc notre chantier est quand même beaucoup plus réduit souvent. Donc ça impacte aussi. Il nous est arrivé de travailler avec des bénévoles qui sont par ailleurs des biologistes et qui sont sensibilisés à ces questions-là.
Pour conclure, pouvez-vous nous expliquer ce que deviennent les objets archéologiques une fois qu'ils sont remontés à la surface ?
Déjà, si on remonte des objets archéologiques, c'est qu'a priori, on a le droit de le faire. Il arrive qu'on les étudie pour un temps limité et qu'ensuite on les réimmerge pour les protéger. Il arrive également que ce soit prévu, qu'on puisse sortir des objets, auquel cas, c'est que on a derrière le plan de leur conservation sur le long terme dans des collections ou bien de l'État ou de musées. Voilà, ça appartiendra à un dépôt et donc c'est prévu un petit peu en amont. Dans tous les cas, ils vont subir un traitement préventif qui est lié à leurs conditions d'objets mouillés. Tous les objets qui sortent de l'eau marine sont salés, a priori. Donc si on les sèche très très vite, ces sels vont se resolidifier et parfois vont faire exploser ou bien des objets en métaux ou bien des objets en céramique. Donc il va falloir les dessaler progressivement en les mettant dans des bains d'eau douce qui vont être changés régulièrement, ce qui va permettre d'enlever le sel par osmose petit à petit. Donc ça, c'est des protocoles qui sont en place, qui sont assez bien connus maintenant. Et donc le DRASM nous fournit également un protocole à suivre pour s'occuper des objets et faire en sorte qu'ils puissent être conservés.
Cet épisode a été préparé par Estelle, Antoine, Clément et Élodie. Un grand merci à Hélène Botcazou de nous avoir si généreusement parlé de son métier. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Dramar pour connaître toutes les actualités de l'association. Pour participer à la cagnotte pour la sauvegarde de l'Hermine Bretagne, rendez-vous sur Hello Asso. Merci également à Céline Kergonan et Antoine Gouritin de l'Université de Rennes 2. À bientôt pour un prochain épisode de Truelle et sac à dos.